Avec nous sur les ondes de SBS French, Adélaïde Bon, une écrivaine française, comédienne et lectrice à voix haute. Son premier livre, publié en mars 2018, « La petite fille sur la banquise », parle de son histoire, une histoire terrible d'un viol subi à ses 9 ans à Paris. Adélaïde Bon est à Sydney en ce moment. Elle parlera de son livre au Sydney Writers Festival, qui se déroule en ce moment du 29 avril au 5 mai à l'espace Carriage Works à Sydney. Adélaïde Bon, merci d'être avec nous sur les ondes de SBS French.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Alors, votre livre, La petite fille sur la banquise, est une histoire bouleversante d'un viol, c'est le vôtre, de votre traumatisme et de votre combat à s'en sortir. Racontez-nous un peu votre histoire.
J'étais une petite fille d'un quartier bourgeois de Paris, du 16e arrondissement, et à 9 ans, j'ai gagné un poisson rouge à la fête de l'école. Et j'ai réussi à convaincre mes parents d'aller à l'école acheter de la nourriture pour ce poisson. Et c'est peut-être la seule fois où mes parents m'ont laissé sortir seule de la maison. Et malheureusement, ce jour-là, j'ai croisé la route d'un violeur en série de petites filles qui a sévi dans ce quartier pendant une vingtaine d'années et qui m'a violée dans la cage d'escalier de mes parents. Et ce livre, c'est l'histoire pas tant du viol que des années qui ont suivi, des années de confusion, d'obscurité, où j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qui m'arrivait, où je ne faisais pas les liens entre cet événement dont je ne me souvenais pas de tout. J'ai eu ce qui s'appelle une amnésie traumatique et tout un tas de symptômes que j'avais dans ma vie et dont je me sentais responsable, que je parvenais pas à expliquer. Donc c'est le récit d'une lente reconstruction jusqu'à poser les mots justes. Et c'est aussi voilà, le récit de retrouvailles avec le langage, avec les mots à l'endroit, où, les mots justes. Puis le procès de mon agresseur qui a eu lieu quand j'avais 35 ans.
À quel moment est-ce que vous avez décidé d'écrire votre histoire ?
Quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai eu un coup de fil de la police pour me dire qu'un suspect avait été arrêté. À l'époque, je commençais déjà à aller un petit peu mieux et je me suis dit que c'était incroyable, cette chance inouïe que la police ne m'ait pas oubliée, que j'ai le droit à une réparation juridique. J'ai toujours écrit, ça a toujours été extrêmement compliqué, c'était extrêmement angoissant pour moi d'écrire et pourtant, je n'arrêtais pas d'écrire et à ce moment-là, je me suis inscrite à un atelier d'écriture en me disant que si j'étais entourée, ce serait moins angoissant et j'aurais peut-être moins d'attaques de panique quand j'écrivais. Et au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'écrivais toujours sur la même chose, toujours sur lui et toujours sur ce qui s'était passé dans cet escalier à 9 ans. Alors je me suis dit, pour écrire, il faut que j'en passe par écrire cette histoire-là. Et pour la première fois d'ailleurs, l'écriture s'est faite sans panique, sans angoisse. Ça a été une grande joie d'écrire ce livre, même s'il est dur pour le lecteur. Mais il a été écrit dans la joie, vraiment, profondément.
Est-ce qu'écrire donc ce livre a fait partie pour vous d'une thérapie ? Est-ce que ça a aidé à votre reconstruction personnelle ?
Oui, bien sûr. Beaucoup de choses ont aidé à ma reconstruction. La thérapie, le fait de rencontrer des thérapeutes formés en psychotraumatologie et qui comprenaient les spécificités des violences sexuelles et notamment de celles qu'on a subies enfant. Ça m'a beaucoup aidé. La réparation juridique, judiciaire m'a énormément aidé aussi. Le fait de rencontrer d'autres victimes, d'avoir un langage commun avec elles. Mais dans l'écriture, c'est comme si j'avais pu retrouver ma langue maternelle. Parce que après ce jour-là, dans l'escalier, les mots se sont tous renversés, se sont mis à dire l'inverse. Et c'est comme si je me parlais toujours à tort et à travers, comme si la violence c'était devenu le plaisir, la haine, l'amour, la confiance, le mensonge. Tout était retourné, tout était à l'envers. Et je ne pouvais plus prendre appui sur les mots. D'écrire ce livre m'a vraiment permis de reprendre contact avec le langage et donc avec l'avenir, parce qu'une fois qu'on est maître de ses mots, de sa langue, on peut envisager L'avenir, on peut penser le futur et penser PANSER, le passé. Ça a été un acte extrêmement puissant d'écrire ce qui m'était arrivé et avec le désir de transformer mon lecteur, avec le désir de voilà, que les mots soient au service de la réparation, de la tendresse, de la clarté, de la précision, quand pendant toutes ces années, ils avaient été au service de l'obscurité et de la confusion.
Vous parlez beaucoup des mots. C'est vers l'âge peut-être de 25-26 ans que vous entendez le mot « viol », que vous comprenez que vous avez été, en fait, violée. Vous vous étiez toujours dit que c'était comme une agression sexuelle. Ça, ça a vraiment aussi changé votre perspective et ça vous a aidé également.
Le mot « viol » a été pour moi comme un éclair dans la nuit. Alors bien sûr, j'avais déjà entendu parler de viol, mais simplement, ce jour-là, j'ai appris que la pénétration digitale, c'était un viol. Et je ne le savais pas, tout simplement. Pour moi, le viol, c'était comme pour beaucoup de gens, un truc sordide qui se passe dans les parkings. La nuit, j'étais complètement dans la culture du viol et dans les stéréotypes autour de ça. Et d'avoir pu mettre ce mot-là, ça me rendait légitime d'avoir été aussi détruite. On m'avait fait ce mot-là. C'est ça qu'il m'avait fait. Du coup, c'était OK que j'aille si mal. Il y avait une raison. Voilà, je me suis sentie légitime d'avoir tant souffert.
Vous avez été aidée par beaucoup de psychothérapeutes, de psychologues. Mais votre famille, dans tout ça, en fait, on comprend que vous avez envie d'en parler à votre famille. Vous avez envie d'être aidée par votre famille. Vous êtes aidée par beaucoup de choses. Mais votre famille, elle est pas forcément très présente dans votre reconstruction, mais même à l'adolescence ou jeune adulte, c'est vraiment peut-être au moment du procès où ils commencent à entendre en fait tous les détails, qu'ils se rendent compte du mal que vous avez eu et d'un mal que vous avez souffert tout au long de votre vie pour l'instant, oui.
Quand j'étais petite, j'ai commencé à ne plus rien dire à mes parents. Alors caché mes cauchemars, je suis devenue boulimique, je l'ai caché. J'avais tellement peur de ne plus voir dans leurs yeux la petite fille qu'ils aimaient et qui n'existait plus en moi. J'avais terriblement besoin que eux y croient encore. Je me sentais tellement sale et coupable et voilà, un déchet, que j'avais besoin de leur regard sur moi. Et alors j'ai mis toute mon énergie, toute mon intelligence à leur dissimuler ce que je croyais être ma vérité. Voilà, moi je me pensais illégitime, quelqu'un de factice, une menteuse. Et j'ai fait des efforts immense pour que personne ne s'en rende compte. J'avais tellement peur que si quelqu'un s'en rendait compte, ils arrêteraient de m'aimer et d'être abandonnée. Donc pendant des années, effectivement, j'ai osé en parler qu'à des thérapeutes. Même mes amis, je les protégeais beaucoup de ce que je vivais à l'intérieur de moi. Et puis j'avais besoin, quand j'étais en société, d'aller bien. C'était tellement dur d'être seule qu'en plus, j'allais pas abîmer ces endroits-là où je pouvais avoir une petite pause avec moi-même quand j'étais avec d'autres. Et après, en grandissant, le fossé s'était tellement agrandi. Je parlais une langue tellement différente de la leur que c'était difficile de franchir cet océan-là. Et voilà, on parlait plus du tout la même langue. Eux, je pense, ont beaucoup souffert de ce qu'ils ont vécu comme mon retrait de la famille et qu'ils n'arrivaient pas à s'expliquer. Bon, parce qu'ils ne savaient pas tout ce qui s'était passé dans cet escalier-là. Juste après les faits, j'étais dissociée. Donc, j'étais extrêmement calme et à l'époque, on n'expliquait pas du tout aux parents que la dissociation, c'est un symptôme d'une très grande souffrance, et qu'un enfant extrêmement calme, c'est un enfant qui va très très mal. Donc ils se sont dit, bon, ça a l'air d'aller, heureusement elle n'a pas été violée, tout, on a échappé belle, et puis après on n'en a plus jamais reparlé. Donc il y a eu beaucoup de silence qui s'est construit, et c'est au moment du procès que j'ai enfin réussi à leur dire, à revenir vers eux, à leur dire, voilà, tout ce qui s'était passé pour moi pendant toutes ces années, tout ce que j'avais vécu et que je leur avais caché. Et depuis, donc là, ça fait 4 ans au procès, 3 ans et demi. Et là, je les retrouve, en fait. C'est magnifique, c'est bouleversant. Enfin, j'ai une relation avec mes parents que j'aurais jamais cru imaginable, en fait. J'ai retrouvé ma mère, mon père, mes frères et sœurs. J'ai une de mes sœurs avec qui le lien était toujours resté, mais elle a été aussi victime de viol. Alors bon, ça nous a, je crois, rapprochés, même si on savait pas très bien pourquoi on se sentait proches, mais en fait, c'était à cause de ça.
Sans parler de regrets du tout, d'en avoir parlé ou pas avec vos parents quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous pensez que si vous en aviez parlé, les choses auraient été différentes ?
Mais j'avais aucun mot pour en parler. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'importance des mots, mais à 9 ans, on n'a pas de mots pour dire ça. Ça n'existe. D'ailleurs, il n'y a pas de mots pour dire ça. Le vocabulaire est terriblement pauvre concernant les violences sexuelles. On est obligé d'utiliser le lexique de l'amour, de la sexualité, de la tendresse. C'est horrible. J'étais obligée de dire aux policiers qu'il m'avait demandé de le caresser, mais c'est pas ça des caresses. C'est ça. Voilà, il y a tout un lexique qu'il faudrait inventer. Et quand on a 9 ans, c'est inimaginable autant de haine. Voilà, j'avais pas les mots pour leur dire.
Vous en êtes le lecteur à connaître l'histoire et les périodes sombres aussi d'Adélaïde, de ses 9 ans jusqu'à sa trentaine, jusqu'à aujourd'hui, 35 ans. Pourquoi avoir choisi cette perspective plutôt que de parler à la première personne ? Alors parfois, c'est l'Adélaïde d'aujourd'hui qui écrivait le livre à ce moment, qui parle aussi pour revenir sur, pour expliquer certaines phases du livre.
Alors ça n'a pas été un choix conscient. Quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment extrêmement important pour moi de rendre les choses avec le plus de précision possible, justement pour ne pas... pour sortir de cette confusion et de cette obscurité dans laquelle la violence m'a plongée pendant tant d'années. Et puis je voulais vraiment que le lecteur fasse l'expérience physique de ce qui m'était arrivé, parce que je crois qu'on peut expliquer pendant des heures ce que c'est que les violences sexuelles, mais que c'est une autre chose que de le ressentir dans son corps, de le ressentir avec sa chair, avec ses émotions. Donc c'était vraiment important pour moi que mon écriture soit extrêmement organique. Je voulais transformer le lecteur, qu'après mon livre, il ait une compréhension intime du désastre que c'est dans une vie, que d'avoir été victime de violences sexuelles, et que ça lui donne des outils pour comprendre les autres victimes, ou s'il est victime par lui-même, que ça lui donne des outils pour aller mieux. Et du coup, je cherchais sans arrêt ce qui était le plus précis, le plus clair. Et je sentais bien que quand j'écrivais à la troisième personne, et ben pour moi, ça sonnait beaucoup plus juste, et que quand je mettais à la première, ça marchait pas. Mais je m'expliquais pas tellement pourquoi. J'écrivais comme ça, et puis je regardais ce qui sonnait juste, et j'avançais au fil de ce fil-là. Aussi ténu soit-il parfois, mais bon. Et puis, assez tard, mais j'avais déjà écrit le livre en entier, j'étais en retravail. J'ai fini par comprendre rationnellement cette fois, qu'en fait, quand j'écrivais à la troisième personne, c'était tous les moments où j'étais complètement dissociée et où finalement, je n'existais pas quand j'avais 20 ans, 25 ans, même 30 ans. J'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait bien dire. Je me vivais avec tellement d'identités différentes. J'étais la fille super géniale qui se bourrait la gueule en soirée. J'étais le monstre plein de pensées atroces et violentes. J'étais la fille désespérée et molle. J'étais toutes sortes de personnalités différentes. Et ça changeait tout le temps. Je pensais que j'étais complètement folle. Il n'y avait pas moyen pour moi de mettre « je » là-dessus. Et du coup, dans l'écriture, « je », ça ne fonctionnait pas. Et tandis que, au moment où j'étais en train d'écrire, ce jeu était en train d'apparaître dans ma vie, tout simplement. Et du coup, bah, ça paraissait plus logique à ce moment-là. Et il y a une troisième forme qui est apparue en toute fin d'écriture. Le manuscrit était déjà accepté aux éditions Grasset. Et j'étais pas contente de ma fin, de mon dernier chapitre dont je sentais, dont je m'étais un petit peu débarrassée. Et donc j'avais demandé, avant d'avoir les retours de l'éditrice, de prendre 2 mois de vacances pour pas travailler dessus et après de m'y replonger. Et à ce moment-là, quand j'ai retravaillé vraiment l'épilogue, Tu est apparu. Et c'était bouleversant pour moi parce que c'était cette petite fille que j'avais quittée dans cet escalier à 9 ans. Et qui m'est revenue à la fin du livre. Et j'ai pu, voilà, j'ai pu m'adresser à elle. C'était très émouvant. Voilà. Donc ce travail sur je tue elle s'est fait vraiment au fil de la plume, au fil de la nécessité pour moi de dire et de me réparer aussi, hein, de me relier finalement entre je tue et elle.
Alors, vous l'avez dit aussi, ce livre peut être assez bouleversant pour les lecteurs. Il y a des moments très forts et très émouvants. Et il y en a un qui est comme dédié à votre fils. Vous avez peur de ce qu'il pensera plus tard, mais vous mettez tout de même des mots sur ce que vous ressentiez quand il était bébé, des idées terribles qui vous parviennent. Est-ce que c'est aussi pour montrer à quel point vous perdiez pied?
C'est le chapitre qui a été le plus difficile et douloureux pour moi à écrire. Il y a même eu un moment où j'arrivais pas à le mettre à l'écrire et où je m'étais dit, bon, ben j'arrête. Parce que pour moi, c'était le plus essentiel de tout le livre et que ça servait à rien d'écrire le livre si je le mettais pas. Quand on a été victime de violences sexuelles quand on est enfant, très 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 souvent, quand on devient mère, on a des images extraordinairement violentes qui nous arrivent et dont personne ne nous prévient et dont on pense qu'elles vont mettre en danger notre enfant et c'est effroyable. Et ça s'accompagne de pulsions, de phobies suicidaires extrêmement fortes. Et ça a peut-être été la période la plus douloureuse de ma vie. Des moments d'un vacillement extrême où je me pensais capable de faire subir à mon enfant des choses que j'avais moi-même subies. J'ai compris en thérapie, grâce à une psychotraumatologue formidable, que ces pensées-là ne m'appartenaient pas, qu'elles faisaient partie de ce que les psychotraumatologues appellent la colonisation, et qui est en quelque sorte la contamination par la haine, enfin la contamination de nos pensées, de notre vie intérieure par la haine de l'agresseur. Alors j'explique à un moment dans le livre comment cette contamination, cette colonisation se fait au moment même du viol, hein, justement parce que on est dissocié et que notre cortex préfrontal n'est pas en capacité de faire le tri entre ce qui vient de lui, sa perversité, sa haine, et ce qui vient de nous, la terreur, la douleur, et tout ça devient mélangé. Donc c'était essentiel pour moi de dire aux autres victimes, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas perverse, vous n'êtes pas violente. Simplement, vous avez été victime de stress post-traumatique. Et ça, c'est un des symptômes. Et c'est peut-être le symptôme le plus monstrueux et le moins dit aux victimes. Et le jour où j'ai compris, en lisant le livre de cette psychiatre qui s'appelle la docteure Muriel Salmona, c'est en lisant son livre où elle parlait de ça. J'étais à ce moment-là, mon fils avait quelques mois et j'étais en plein dans ce vertige-là. Et je me suis dit, mais il faut que tout le monde le sache, il faut que toutes les victimes soient au courant. Et d'ailleurs, c'est le chapitre dont me parlent toutes les victimes qui viennent me voir. J'ai reçu des milliers de messages à la sortie de mon livre. Et quasiment toutes les victimes qui sont mères m'ont dit « c'est le chapitre qui m'a sauvé la vie ». De même que moi, c'est en lisant ça dans ce livre du docteur Mira Salmona que je me suis pas suicidée, concrètement. Pour moi, c'était vraiment le chapitre le plus important à écrire de tout le livre, parce que, oui, il est très difficile pour le lecteur qui n'a pas été victime, mais il est essentiel pour celle ou celui qui a été victime et qui ressent ça. Parce qu'en fait, c'est juste un symptôme. Et que non, on ne va pas reproduire sur nos enfants.
Je vous sens très émue. C'est encore très à vif, très douloureux, tout ce qui s'est passé.
Alors, je crois que ça sera... c'est pas douloureux, c'est pas à vif, mais ce sera émouvant pour moi, pour toute ma vie. Et puis, je mets un point d'honneur quand je réponds aux interviews, à être le plus en contact avec moi-même, à pas me dissocier justement et à pas parler de ce qui m'est arrivé comme un gentil robot. Parce que, encore une fois, je crois que les mots transforment. Mais pour que les mots transforment, il faut qu'ils soient incarnés. Et donc, alors c'est pour ça que je crois que je serais incapable de faire 52 interviews dans une même journée, parce que ça me coûte. Mais pour moi, c'est vraiment primordial de répondre à ces questions-là avec tout mon cœur et tout mon corps. Voilà. Donc oui, je suis émue, mais c'est parce que je me fais un devoir de l'être.
Donc vous serez au Carriage Works pour le Sydney Writer Festival demain et vous allez présenter un sujet qui vous fascine, c'est ce que vous dites, l'histoire des sorcières.
Oui. Quand on m'a proposé de participer au Sydney Writer Festival, ils m'ont demandé s'il y avait un sujet sur lequel j'avais jamais écrit mais qui m'intéressait. J'ai trouvé ça juste génial comme proposition, donc je leur ai proposé de parler des sorcières. J'ai toujours adoré les sorcières. Et elles ont beaucoup participé, cette figure a beaucoup participé à mon empouvoirment, comme on dit en français, parce que pour essayer de ne pas faire trop d'anglicisme sur empowerment. L'histoire des sorcières, le fait... donc voilà, donc je vais parler demain à la fois de comment, quand j'étais petite, toutes les sorcières qui m'ont accompagnée pendant mon enfance, Sacrée Sorcière de Roald Dahl, Le problème avec ma mère de Babette Cole, La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari, et puis de l'histoire vraie des sorcières, c'est-à-dire de comment la chasse aux sorcières est basée sur un gigantesque mensonge, sur un génocide de femmes, et comment il a construit pour nous, femmes occidentales, notre comportement en tant que femme. Hein, donc je vais parler de tout ça, de faire une espèce d'historique de qu'est-ce qu'a réellement été la chasse aux sorcières. Et puis je vais parler du pouvoir des mots. Attends, j'ai déjà un peu parlé ici de comment... pour moi, écrire, c'est vraiment un peu un acte de sorcellerie. Et je crois que... on peut réinventer le monde, et Dieu sait qu'il en a besoin, en utilisant la puissance des mots.
Les sorcières, les femmes, aujourd'hui vous êtes féministe.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette partie de vous ?
Alors, je suis militante féministe depuis plusieurs années. Je donne des ateliers d'empouvoirment à des femmes qui ont été victimes de violences en utilisant toutes sortes d'outils, de l'écriture, du théâtre, de la lecture à voix haute, de la danse, du chant, du yoga. Ça dépend du parcours de chacune aussi, de l'écriture, je ne sais plus si j'ai dit. Mais... Et puis après, on fait des spectacles où l'idée, c'est de les mettre en valeur, de mettre en valeur leur parcours, parce que j'ai affaire à des héroïnes, vraiment, dans ces ateliers, à des femmes. Donc je travaille spécifiquement avec des gens qui... Alors ça pour les Français qui sont en Australie depuis très longtemps, je ne sais pas s'ils sauront, mais qui sont RSA longue durée, ça veut dire qu'elles n'ont plus d'allocation chômage et elles sont en situation de grande précarité. Et voilà, je travaille avec elles à mettre en valeur... les héroïnes qu'elles habitent, qu'elles sont. Ouais, voilà. Et puis je milite aussi beaucoup pour que la loi française évolue, bon, même si pour l'instant, ça ne marche pas des masses.
Et vendredi, vous présentez votre livre au Sydney Writers Festival. Qu'est-ce que vous espérez transmettre ?
Qu'est-ce que j'espère transmettre ? Ben, le désir de me lire, tout simplement, déjà, parce que j'ai mis tellement de soin dans mon livre que quand je parle de ce que j'ai écrit, j'ai toujours l'impression d'être un peu en dessous de ce que j'ai écrit. À l'oral, je suis moins bonne qu'à l'écrit. Et puis, leur transmettre quelque chose que j'ai découvert très tard, notamment en rencontrant d'autres victimes, que j'appelle la tendresse. Voilà, j'espère que ce sera une heure très tendre, de partage, d'outils, d'écoute, et qu'on pourra parler de cette chose sordide qui est les violences faites aux enfants, mais qu'on se ressortira plus puissante, plus joyeuse et plus tendre. Je parle au féminin parce que j'utilise la règle de la majorité et de la proximité, et j'assure ce genre de sujet. Généralement, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Voilà.
Vous avez sorti votre livre l'année dernière, et vous êtes déjà en Australie, à un festival d'auteurs et d'autrices qui plus est assez prestigieux. Il y a des véritables star dont vous faites partie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est quand même beau d'être ici un an après avoir écrit son livre. C'est important, c'est une fierté pour vous ?
C'est hallucinant. Moi, je suis hallucinée d'être ici.
Et la seule française ?
Oui. Le livre a extraordinairement bien marché en France. Il a été traduit déjà dans 7 langues, et là, il est en cours de en cours de discussion pour encore d'autres langues. La vie est tellement merveilleusement généreuse. Je dois toujours un peu me pincer pour y croire, de me dire que c'est mon histoire qui m'a tant coûté, qui finalement m'aura mené de l'autre côté du monde. Hier soir, moi, c'est une anecdote, mais je dors près de Tamarama, donc près de l'océan, et le ciel était très dégagé, donc je suis sortie dehors regarder les étoiles. Enfin, je suis sortie dehors regarder l'océan, quoi. Et puis j'ai levé la tête et j'ai eu un coup au cœur, parce que c'était pas les mêmes étoiles qu'à la maison. Et c'est la première fois de ma vie que je viens dans l'hémisphère sud, et tout d'un coup, de voir ce ciel, ces étoiles étrangères que j'avais jamais vues, ça m'a bouleversée, de me dire que c'est mon histoire, aussi dure qu'elle ait pu être, qui m'ait permis de lever les yeux vers un ciel nouveau. C'était vraiment bouleversant. Enfin, je suis bouleversée d'être ici. J'ai beaucoup de chance.
Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ?
Très bien. Non, mais oui, c'est vrai. Je vais très bien. Je pourrais dire que je suis guérie d'une certaine manière, même si c'est pas une maladie que j'ai eue, mais je ne souffre plus des symptômes dont j'ai souffert pendant tant d'années, justement parce que j'ai pu retrouver la mémoire de ce qui m'était arrivé dans l'escalier. L'amnésie traumatique s'est levée, que j'ai pu être accompagnée par quelqu'un qui était formé sur les questions des violences sexuelles, et Dieu sait, alors je sais pas comment c'est en Australie, mais en France c'est extrêmement difficile de trouver des thérapeutes compétents. La plupart des thérapeutes en France ne sont pas du tout formés sur les spécificités des violences sexuelles. Et voilà, moi je vais bien, je suis un peu comme j'ai l'impression d'être un peu une gamine qui a retrouvé le cours d'une vie. j'ai 38 ans, donc je suis quand même censée être une adulte. Mais là, aujourd'hui à Sydney, je suis vraiment comme une gamine, je suis très très contente.
Un message peut-être pour ces femmes, ces filles qui nous écoutent, à qui il est arrivé des choses graves comme vous, qui ont peur d'en parler, qui se sentent pas bien, ou peut-être pour des parents qui sont dans le déni, ou qui arrivent peut-être, ou qui ont envie de parler à leurs enfants, qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y a un message ? C'est un peu réduire la chose de dire global, mais est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer ?
je crois, pour moi, une des choses qui a été les plus essentielles dans mon parcours, c'est de me rendre compte que j'étais pas toute seule. C'est de sortir de cette solitude. Les pensées de haine et de violence sont tellement terrifiantes qu'on n'ose en parler à personne. Et sortir de cet isolement, comprendre qu'elle ne m'appartenait pas et que, en fait, toutes les autres victimes avaient des pensées et des images similaires qui les hantaient, elles aussi, et qu'elles aussi, elles pensaient qu'elles étaient toutes seules à avoir ça, ça a été extraordinairement réparateur. Donc je crois que aujourd'hui, notamment grâce à MeToo, il y a énormément de groupes de parole, que ce soit sur Internet ou en vrai. Il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Je pense au site www.mémoiretraumatique.org, qui est un site français qui a vraiment énormément de ressources extrêmement précises pour les parents, pour les soignants, pour les magistrats, pour mieux comprendre ce que c'est que les violences sexuelles. Voilà, je crois que quand on est parent, on a besoin de se renseigner pour comprendre, et que quand on est victime, rencontrer d'autres victimes, c'est extrêmement réparateur.
Adélaïde, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS French.
Merci infiniment à vous.